Et maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Polina Borisova. Bonsoir.
Bonsoir. Bonjour.
Formée à l'École supérieure des arts de la marionnette de Charleville-Mézières, Polina Borisova est une jeune artiste russe. On peut la voir ce soir et demain soir sur la scène de la Cove Poésie avec Go, son premier spectacle. Dans le noir de son appartement, une vieille femme erre entre des îlots de lumière. Elle retrouve des bouts d'objets, de souvenirs et de vie qu'elle rassemble. Le spectateur est invité à se laisser saisir par un univers singulier, empli d'émotions et de tendresse pour aborder la question du dernier départ. Ce spectacle raconte, sans aucune parole, la solitude du voyage dans les souvenirs. Alors pourquoi avoir choisi les arts de la marionnette dans votre parcours, Polina ? C'est un petit peu familial.
Oui, c'est vrai. À vrai dire, peut-être je ne l'ai pas vraiment choisi, parce qu'à l'époque où il fallait faire des choix, où aller faire les études, c'était à peu près la seule option qui était le plus réaliste pour moi, parce que je suis née dans une famille de marionnettistes, et depuis l'enfance, c'est à peu près tout ce que je voyais, tout ce que je connaissais à peu près. Alors c'était assez, allez, au lieu de faire un effort et chercher autre chose, je suis partie directement dans la marionnette. Et c'est plus tard que j'ai changé un peu, dévié de cette piste et parti faire d'autres études. J'ai commencé en tant que constructrice et concepteur de scénographie, de marionnettes. Et puis, je suis venue en France pour étudier le reste de ce métier, l'interprétation, dramaturgie, mise en scène, tout ça.
Oui, justement, la France, elle est venue sur votre parcours pour des raisons artistiques.
Oui, tout à fait. Je suis venue pour entrer à l'école de Charleville-Mézières. C'est une école internationale unique de marionnettes.
Et là, le regard est un petit peu différent. C'est plus orienté clown, c'est plus orienté théâtre contemporain. Qu'est-ce que vous veniez chercher exactement à Charleville ?
Déjà, il faut dire que le système d'éducation théâtrale est différent en France, parce qu'elle sert le système différent du théâtre, de l'Institut du théâtre en général. Et en Russie, c'est principalement le théâtre du répertoire qui règne. Donc, c'est les théâtres. En France, il y a le seul exemple de ça, c'est la Comédie française. Les acteurs sont engagés en temps plein et en CDI. Et les restes de théâtre en France sont divisés en théâtre en tant que bâtiment et compagnie en tant que groupe d'artistes. En Russie, c'est toujours le théâtre, c'est la troupe avec leur bâtiment qui crée les spectacles et les joue toute l'année. Et où les spectateurs viennent pendant toute l'année de voir les spectacles. Du coup, ils ont leur répertoire et ils se répètent, ils créent de nouveau les vieux spectacles par la retraite. Parfois, ils reviennent. Et pareil dans le théâtre de marionnettes. Et le public s'épuise jamais parce que les enfants reviennent, les nouvelles générations reviennent et les spectacles de marionnettes existent pendant 50 ans, 70 ans et se réparent, renouvellent un petit peu. Mais il y a des très vieux spectacles. Et pourquoi je parle de ça? Ah oui, et du coup le système éducatif, elle sert justement pour sortir les spécialistes pour ce système. Et en Russie, c'est très finement divisé. Quand tu choisis, si tu dois être... quand tu décides d'entrer dans l'école de théâtre et département de marionnettes, par exemple, tu dois déjà choisir si tu vas être acteur de théâtre de marionnettes, metteur en scène de théâtre de marionnettes, ou alors le concepteur, ou bien le constructeur, ou si tu décides de faire du théâtre humain, si tu es costumière, ou scénographe, ou encore une fois l'acteur. Du coup, c'est très défini. J'ai fait la formation de constructrice conceptrice de la marionnette et scénographie pour le théâtre de marionnettes. Et du coup, c'était assez comme direction. Et venant en France, j'ai découvert que ici c'est beaucoup plus vague et beaucoup plus large comme terme, marionnettiste. Et en fait, dans l'école de Charleville-Mézières, le ESNAM, le fameux ESNAM, on apprend à être marionnettiste. Ça veut dire de faire tout ce qui est lié à la marionnette. Et de créer tes marionnettes, de les mettre en scène, de jouer dedans. Et ça paraît super génial. Et malheureusement, ce dernier temps, j'ai remarqué qu'ils essaient encore de revenir au système de division. et de définir plus précisément qui serait qui. Moi, je trouve qu'il faut continuer à se battre pour ce titre marionnettiste au sens large, parce que c'est très avantageux et c'est très juste. Parce que vous m'arrêtez quand
non, 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 justement, c'est très intéressant.
Parce que... voilà.
Alors, pour ce premier spectacle, Go, la fin de vie, c'est une thématique peu commune. Comment vous est venu l'envie de traiter cette thématique-là?
Au départ, comme j'étais très libre sur le choix du thème du spectacle, je voulais partir sur le thème de voyage. Comme je voyage beaucoup dans les tournées et comme ça, dans la vie quotidienne, et ça m'a beaucoup interpellée, cet état de mouvement, tout en restant en immobilité. Souvent, dans la salle d'attente ou dans le train, mais on fait vraiment rien, on a l'impression de perdre le temps, et en même temps, on est en mouvement quelque part. Donc j'ai commencé à travailler sur le voyage, sur cette idée du déplacement sans se déplacer, et très vite, le parallèle de la vie est venu, qu'à chaque fois, quoi qu'on fasse, même si on ne fait rien dans la vie, on y avance. On avance à notre destination finale. ça peut être effrayant, mais ça peut être aussi assez rassurant parce que voilà, on peut ne rien faire et on y va quand même quelque part. Et du coup, cette métaphore, elle a pris très vite le dessus dans le thème du spectacle et c'est devenu le spectacle sur le vraiment dernier voyage.
Sur le dernier voyage.
Vraiment l'arrivée presque de la journée de quelqu'un.
Et la fin de vie, est-ce que c'est quelque chose qui vient souvent dans vos pensées, la fin de vie?
Disons, on vit dans une époque où c'est assez fréquent hein, qu'on nous rappelle de ça. Et en même temps, curieusement, la culture d'aujourd'hui ferme régulièrement les yeux et essaie d'éloigner ce moment le plus possible avec la médecine, la culture de la mort est vraiment éloigné et presque tabou et caché, que c'est quelque chose de mal et on vous fait vivre jusque ce qu'on peut plus, jusque le dernier, je ne sais pas, bout de votre souffrance, jusque il n'y a pas de cocher mort quelque part. Et ça m'a toujours plu dans les contes de fées, notamment russes, que j'ai lus. Il y avait une phrase souvent, il était tellement vieux, il décidait qu'il était temps de mourir. Il s'est allongé sur un banc et il est mort. C'était quelque chose, à l'époque païenne, c'était quelque chose, voilà, la suite logique d'une vie. Tu vis, après tu meurs. Je voulais me questionner un peu sur ça. Et c'est pour ça la question du départ même dans le spectacle est traitée un peu bizarrement, mystérieusement.
Oui, mystérieusement. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur, la mort?
Vous savez, le théâtre, c'est... joue le rôle d'une thérapie, en quelque sorte, pour ceux qui le font. Du coup, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on vit, tout ce dont on a peur, on le met en scène, et comme ça, c'est vécu, c'est fait. Donc maintenant, peut-être à moi, un peu moi.
Justement, le fait de l'avoir mis sur scène et d'avoir traité un petit peu cette question.
De le vivre aussi fréquemment.
Alors, est-ce que c'est vous qui avez écrit cette mise en scène et la trame de ce spectacle, si je comprends bien? Oui,
tout à fait. C'était ma carte blanche pour faire vraiment tout en entier, toute seule. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de regard extérieur. Les gens passaient, j'ai essayé d'être très attentive à leur retour, parce que c'est très utile quand tu es seule. Oui.
Et comment vous l'avez écrit? Alors, il paraît qu'il y a justement des morceaux qui ont été écrits en voyage, des petits bouts de trame. Quelle est votre façon, vous, de décrire les choses?
C'est vrai que je n'ai pas encore fait énormément de créations pour avoir vraiment un système. Je suis encore à la recherche. Est-ce qu'elle existe, le système, pour vraiment commencer à créer un spectacle comme ça? Mais principalement, je constate que je travaille beaucoup avec la recherche du plateau. Donc, j'ai d'abord un thème sur lequel je vais travailler. Je cherche aussi à l'intérieur comme un moteur, l'envie pour le faire. Ça veut dire, j'essaie d'imaginer comment voudrais passer un peu moins d'une heure sur le plateau avec les gens. Donc, c'est cette sensation que j'aimerais avoir pendant ces 45 minutes. Et à partir de là, et avec le thème que je me suis trouvé, je fais beaucoup d'improvisation, je me filme, je prends des photos parce que je suis très dans l'image aussi, et à cause de ma première formation. Et après, de ces impros, je cherche vraiment une logique du plateau qui les relie. Et voilà, c'est à peu près le processus que je
Donc,
observe chez moi.
par la mise à l'épreuve, en fait, ça passe vraiment par le plateau. Donc là, vous avez été, justement, vous avez eu toute une résidence qui a été mise en place avec Autradec, c'est ça?
Oui, tout à fait. Audradec, la compagnie Poupée Landanguès, fait partie de ces compagnies qui, des fameux CEDAM, qui ont le droit à accompagner des jeunes artistes. C'est des lieux de compagnonnage. Et c'est justement dans le cadre d'un compagnonnage de 6 mois que j'ai passé chez eux, que j'ai fait ce premier spectacle.
Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré le personnage de cette femme?
Alors, c'est une très belle question. C'est moi. En fait, ce qui m'intéressait en tant que comédienne, comme recherche sur ce rôle, c'est ne pas copier une mamie ou chercher quelqu'un à interpréter, mais vraiment trouver la mamie en moi. Et c'est pour ça que ces souvenirs, en partie, sont les miens. Et aussi, ça m'a un peu excitée de jouer le futur dont les souvenirs, c'est aujourd'hui. Parce qu'elle se souvient de moi aujourd'hui, donc c'est de maintenant qu'elle se souvient. Et bon, c'est un petit truc pour moi, c'est pas à montrer aux spectateurs, mais un petit truc à s'amuser de l'intérieur. Et donc, je dois avouer, j'ai un petit faible pour des vieilles dames. Je veux dire, c'est toujours
Gironde au
très
fil, ah bah bravo!
Non, mais c'est vrai que de les observer, parce que c'est un mélange d'une grande expérience, d'un grand vécu, quoi que ce soit, qui que ce soit, il y aura toujours, comme a dit Omar Khayyam, petite citation, chaque personne que tu croises sur ton chemin mène un combat dont tu n'as aucune idée. Donc rien que d'imaginer le combat, que ce soit un combat de femme au foyer ou une combattante à la guerre que j'ai croisée aussi, c'est toujours des gens impressionnants. Je pense que juste la vie, comment que tu l'as vécue, mais elle te, juste par le fait de l'avoir vivre, elle te donne un énorme bagage. C'est ce qui me plaît chez les gens. Donc je les observais depuis toute ma vie. Et du coup, ça m'a été, comment, c'était une grande curiosité de retrouver en moi la future mamie. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le fatigue, relâchement du corps, mais aussi sur le fait de non-jeu, de ne pas jouer une mamie, mais vraiment de l'être.
De l'incarner.
Ouais, c'est pour ça que j'ai aussi le masque et des éléments, la perruque, une petite bosse, pour que j'ai pas à me transformer, j'ai qu'à être dedans. Et ça fait une
Mamie.
grand-mère.
Et ça fait une mamie.
Voilà.
On va faire une petite pause musicale et écouter un des extraits du spectacle, si c'est possible, Timothée, ça a l'air d'être possible.
C'est possible. Est-ce que y en a un particulier que vous voulez écouter, Paulina?
N'importe quel. Le premier, on peut mettre parce que c'est
Le
très
premier.
joyeux pour ce
Ouais,
matin.
c'est ce que je me disais.
Alors, un extrait musical du spectacle, quelque chose de très joyeux. Pourquoi avoir choisi cette musique dans le spectacle ?
Alors, c'est une musique soviétique, comme on peut le deviner. Et c'est une chanson très chouette qui me met toujours en bonne humeur parce que c'est le paradoxe de l'époque soviétique. Et une partie de mes souvenirs dans le spectacle, comme dans la vie un petit peu, c'est l'époque soviétique. Donc le paradoxe, c'est qu'il prenait parfois des événements un peu plus ennuyeux ou banals. Il rendait mais plein d'optimisme et de soleil. Du coup, notamment cette chanson, elle dit précisément « Voilà, c'est le matin froid et on doit aller travailler à l'usine ». Oh, que c'est chouette. Allons donc. Vas-y, ma bouclette, réveille-toi. La rivière nous invite avec le vent froid et on va à l'usine. Et c'est tellement chouette, on a envie de se lever et d'aller directement.
Donc, c'est un vrai souvenir.
C'est un paradoxe, vraiment. Comment on peut faire ça? Et en plus, si on regarde bien qui a créé cette chanson, c'est le Shostakovich. Le fameux compositeur, en fait, c'était une commande pour un film. Et puis, la chanson est devenue si populaire, elle a dépassé déjà la gloire du film. Elle est restée vraiment dans l'histoire de musique soviétique. Et c'est encore notre paradoxe, comment des grands artistes pourraient créer dans le cadre d'un régime et sans pourtant se faire écraser. Beaucoup étaient écrasés, j'imagine. Justement, ceux qui ne savaient pas survivre ou essayer d'aller contre le régime. Mais il y en a qui se disaient vraiment prêter son talent et profiter du régime pour créer quand même des choses, des belles choses. Donc, voilà.
Comme cette composition qui donne du coup une tonalité dynamique. Alors, je reprendrai avec une question de nouveau sur la solitude, parce que finalement, c'est ce que vit cette femme dans cette fin de vie. Et puis, on sent qu'elle glisse petit à petit. Du coup, son esprit glisse petit à petit vers une réalité un petit peu différente. Que représente la solitude pour vous ? Est-ce que c'est important pour vous dans votre quotidien ?
Je pense que pour beaucoup de gens, pour tout le monde, la solitude, c'est quelque chose parmi les peurs ou parmi les soucis ou les choses les plus graves. Et si je peux me permettre, comment dire, je pense que pour les gens qui sont généreusement entourés des applaudissements, comme les comédiennes et les actrices comme moi, je pense que le contraste vers la fin de la vie doit faire encore plus grave. Et j'ai regardé, comment j'ai vu sur... j'ai pas étudié, mais j'ai observé les exemples de certaines actrices russes et soviétiques qui étaient très connues à l'époque, vraiment aimées par tout le pays, et qui sont morts dans la pauvreté et la solitude, complètement abandonnées, parce que aussi c'était l'époque des grands changements et l'État s'occupait pas trop vraiment des idoles soviétiques. Et quand on regarde ces interviews, quand on voit ces derniers rôles où ils sont toutes vieilles, et des femmes formidables et avec grand humour et qui disaient que voilà, il y a tellement d'amour autour et il n'y a personne pour aller à la pharmacie pour moi, pour me chercher des médicaments. Et du coup, je le crains et en même temps, je fais une prévention ce spectacle pour avoir le plus d'applaudissements, pour avoir de quoi se souvenir après.
Alors, un premier spectacle qui traite de cette fin de vie et de cette solitude, de quoi faire face à ses peurs. Quelque part les transcender. Alors, j'ai une autre question qui m'a paru étrange, parce qu'en fait, c'est vrai que quand j'ai lu le programme de la CAFPO, et puis quand on m'a dit « Ah, va faire ce spectacle, il est super !» et tout, eh bien, on m'a dit « C'est un spectacle de marionnettes ». Alors, en quoi est-ce que ce spectacle est un spectacle de marionnettes ?
C'est vrai qu'aujourd'hui, le théâtre de marionnettes prend énormément de formes. Et aussi, il y a des branches qui se séparent, qui se dévient, qui forment d'autres arts à part. Hein. Donc, on devrait peut-être appeler plus généralement. Moi, je le fais, j'appelle ce qu'on fait aujourd'hui le théâtre visuel. Mais il y a le théâtre d'objets, le théâtre de marionnettes, le théâtre du mouvement, du masque. Tout ça, avant, on les appelait les éléments marionnettiques pour vraiment se séparer de cette objet bonhomme qu'on appelle marionnette. Mais en fait, ce qu'on fait, tout ce qui réunit toutes ces déviations, c'est qu'on prend une chose inanimée, que ce soit un objet simple, préfabriqué, une tasse ou un bout de scotch, ou qu'on prend une marionnette, ou qu'on prend le texte ou la lumière, mais on prend une chose inanimée et on la charge de quelque chose, on la remplit d'une énergie, si vous voulez, d'une émotion qu'on partage avec le spectateur. Donc, en quelque sorte, on anime cet objet inanimé. Ça, c'est le point commun entre tout ça. Et c'est pour ça que je peux assumer que je fais quand même le théâtre de marionnettes. Dans ce spectacle en particulier, je peux dire que je suis la marionnette puisque j'habite le faux corps de quelqu'un préfabriqué. Donc, je manipule ma marionnette, mais de l'intérieur.
Avec un visage qui est transformé, du coup, avec un masque, une perruque, puis une bosse, oui. Voilà, des vêtements qui laissent imaginer la vieillesse quand même. Voilà.
Oui.
Avez-vous, justement, dans cette incarnation de ce personnage, avez-vous fait tout un travail corporel spécifique ?
Je l'ai fait pendant la recherche. Et puis, comme je l'ai dit, je me suis arrangée, très malin, pour ne pas le jouer justement à chaque fois. Tout ce que j'ai cherché à faire, c'est de trouver cet état dans lequel j'ai qu'à être, pour ne pas à chaque fois me forcer à jouer quelqu'un. Donc je suis juste là. Mais comme j'ai déjà un faux corps, c'est exactement l'impression que j'ai parfois des personnes âgées, qu'on voit vraiment une sorte de carapace, la peau toute ridée, et les mains qui ne bougent plus très bien, mais à l'intérieur, on voit les yeux qui brillent, et on dirait qu'il y a une personne cachée à l'intérieur. Une personne très vivante, avec des idées, les envies, des amours et haine ou des peurs et tout ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que j'ai pris un demi-masque. C'est un masque qui laisse découvert la partie haute de mon visage, les yeux et le front. Et du coup, le bas est figé par cette expression d'une grande dame.
Alors justement, c'est vrai que cette incarnation, elle est quand même assez dynamique. On est surpris. On est surpris par ces
elle
petits.
Est assez vivante.
Elle est, ouais, elle est assez vivante. Elle a des petits tops, des petits moments comme ça, de très très vifs, limite hyperactive en fait. Mm. Et puis dans ce spectacle, le décor joue un rôle très important. Comment avez-vous construit ce décor autour de votre personnage ? Et est-ce que c'est quelque chose qui occupe une place autant importante pour vous que pour le spectateur, qui, donc, ça permet vraiment de se plonger dans cet univers.
Oui, la scénographie est très importante pour moi. Au début du projet, j'essaie de définir l'idée de scénographie, de genre, dans un spectacle, j'ai décidé que je serais autour d'une petite scénographie, comme le centre, comme un mobile. Dans d'autres spectacles, j'ai décidé que je serais le centre d'une scénographie. Ici, je voulais que la scénographie serait... que je pourrais faire une... Comment dire ?
Une déambulation
dans la scénographie. Je voulais que c'est comme des îlots, comme si la réalité de cette dame est presque très obscure, déjà. Il y a seulement certains objets qui surgissent, qu'elle remarque, les objets qui sont plus importants que d'autres pour elle. Donc c'est comme une chambre complètement sombre, comme avec les yeux fermés. Parfois, il y a des lumières qui font ressortir de certains événements ou des objets. C'est pour ça, normalement, je joue dans une boîte noire, complètement à la cave poésie. Le sol est tellement bien, un parquet en bois, que j'ai laissé comme ça. Il est assez sombre. Du coup, ça lie aussi la surface. Mais parfois, dans le cabinet, dans la boîte noire, ce qu'on appelle le théâtre, quand vraiment tout est complètement noir, on a vraiment cette sensation que les choses, comme cette dame, apparaissent du noir et peuvent disparaître dans le noir, vraiment comme dans notre imaginaire. comme dans les souvenirs.
Oui, c'est ça, il y a beaucoup de jeux avec la lumière et puis un décor qui étonnamment se crée au fur et à mesure. Alors on ne va pas trop en dire pour laisser aux spectateurs la surprise, mais c'est vrai que ça, ça crée une ambiance très particulière avec, et on a envie d'accompagner cette femme, d'être là et en même temps elle est très seule et ça fait vraiment appel à notre solitude à nous. Et voilà, c'est ce qui permet vraiment de plonger dans l'émotion. Alors, c'est un spectacle sans parole où l'émotion est profondément palpable. C'était important pour vous qu'il soit silencieux, ce spectacle ?
Important, disons, je ne suis pas très texte, hein, c'est pour faire simple. Déjà, le fait qu'il n'y a pas de texte dans ce spectacle nous a permis d'aller dans beaucoup de pays. Beaucoup de festivals internationaux. C'est vraiment l'image et métaphore, parce que le théâtre de marionnettes opère des métaphores particulièrement. Et ça permet d'aller vraiment directement parler au cœur et pas au cerveau, pas passer par une traduction en langage pour une émotion ou pour un état ou pour une sensation. C'est pour ça que je préfère aller directement. Donc oui, c'est assumer le choix de ne pas avoir le texte.
Et justement, bon, ma question c'était, est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer ce spectacle en Russie ?
Oui, on a eu plusieurs occasions. Et pendant une petite tournée, on a eu même l'occasion de jouer dans ma ville natale, où il y a encore tous les vieux acteurs qui connaissaient, mes parents et mes grands-parents, qui sont venus au spectacle, c'était très touchant. Et venu avec la photo de moi petite et qui disait c'est elle sur mes genoux, je la connais. Donc c'était très touchant. La ville de Omsk, c'est en Sibérie, nous a fait un vrai accueil avec des journalistes à l'aéroport. C'était très très touchant.
Alors depuis ce spectacle, il y en a eu d'autres, hein. Donc celui-ci c'est le premier, mais il y en a d'autres comme Skazka. Quels sont vos projets pour 2018?
Pour 2018, là on est 2017, ah oui, 2018 commence. Alors, en ce moment, je fais pas mal de construction de marionnettes pour d'autres compagnies. Comme je suis un freelanceur, je prête aussi mes savoir-faire comédienne, je joue dans d'autres spectacles, dans deux ou trois compagnies. Donc pour 2018, j'ai pas mal de construction. Et aussi où on tourne, donc ce spectacle Go, Skazka, je tourne aussi avec le spectacle de Pupela Nanges, qui après et pendant mon compagnonnage m'a proposé de participer à leur création. Et voilà, je vais reprendre un rôle dans une autre compagnie, je passe mon rôle dans une autre compagnie à quelqu'un d'autre, donc ça bouge, ça tourne dans tous les sens.
Donc plutôt plein de projets, pas forcément de création personnelle, mais des projets en cours avec d'autres compagnies et de tourner vos spectacles déjà actuels. Alors on peut vous retrouver ce soir sur la scène de la Cave Poésie à 20h30, demain soir également. On invite les auditeurs et auditrices à réserver. Vous pouvez réserver par téléphone au 05 61 23 62 00. On vous conseille fortement d'aller voir ce spectacle pour passer un bon moment. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.